Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Romain Ouzouy, ce qu'on dit les uns et les autres. Et nous décrypterons cette parole avec un politologue ce soir, Martial Foucault. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, directeur du Centre de Recherche Politique de Sciences Po, qu'on appelle aussi le CEVIPOF. Ce sera demain sous la belle voûte du Grand Palais à Paris. Seront là près de la moitié du gouvernement et 500 personnes, de simples citoyens, des représentants des associations et des corps intermédiaires, des maires, ainsi qu'une centaine de directeurs d'administration, car ils seront amenés à mettre en œuvre les décisions issues du Grand Débat. En effet, 3 heures durant sera faite la restitution du Grand Débat national voulu par le président de la République pour répondre aux attentes des Gilets jaunes, qui, soit dit au passage, étaient très peu nombreux hier dans les rues. Pouvoir d'achat, fiscalité, écologie, démocratie, l'on saura que retenir des comptes rendus, des 10 000 réunions locales, des 16 000 cahiers de doléances ouverts dans les mairies, des centaines de milliers de propositions citoyennes, des plus de 2 mois de consultation. Et Martial Foucault, pour le CEVIPOF, vous avez même participé à une vingtaine de ces débats et vos étudiants de Sciences Po ont été mis à contribution.
Oui, on a observé pendant plus de 2 mois et demi, chaque semaine, on tirait au sort une 50aine de débats déclarés sur la plateforme, ce qu'on appelle les réunions d'initiative locale, et nous nous sommes déployés physiquement pour aller observer, entendre ce que ces participants disaient, et surtout essayer de comprendre qui ils étaient, parce que c'est vrai que c'est un grand mystère pour le moment. On va dire beaucoup de choses sur ces propositions.
Quel est le profil des gens qui ont participé à ce débat?
Ce profil, il est assez homogène, quelle que soit la réunion, quelle que soit la taille de la commune, quel que soit l'organisateur, je dirais un profil de personnes plutôt âgées, une moyenne d'âge de près de 60 ans, des gens très éduqués, mais aussi des personnes qui participaient pour moitié pour la première fois à une réunion publique. Donc c'est quelque chose qui pour moi est très très important, parce que cela veut dire que ce n'est pas nécessairement un public très politisé, coutumier de ces rencontres, de ces meetings, de cette participation à la vie démocratique.
Pas militant, mais citoyen, on va dire.
Oui, citoyen, et surtout, je dirais d'une certaine manière, mobilisé par l'instant, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux et de nombreux témoignages convergeaient vers l'idée finalement de se mobiliser parce que la séquence, la nature de la crise, l'ampleur de la crise justifiait d'être finalement un contributeur à ce débat. Mais beaucoup d'entre eux, c'est ça qui est très intéressant, se sont rendus sur place et sont restés silencieux à écouter davantage, je dirais ce qu'on appelle les leaders d'opinion, les gens qui sont capables de prendre la parole en public. C'est un exercice compliqué, mais le fait d'être présent pour eux, c'était une manière d'expliquer qu'ils étaient solidaires d'une vie démocratique qui aujourd'hui souffre de beaucoup d'huile dans cette mécanique.
Et parmi ces personnes qui sont intervenues lors de ces grands débats, il y a eu le premier citoyen, on va dire, français, à savoir Emmanuel Macron, le président de la République, qui est intervenu durant 92 heures d'échange avec des maires, avec des citoyens, et il a conclu, Romain Ouzouy, le grand débat cette semaine.
Oui, avec un dernier déplacement sous haute tension en Corse, c'était jeudi, mais c'est la veille en Bretagne que le chef de l'État a commencé à se projeter sur cette très attendue restitution du grand débat, attendu donc demain lundi. Écoutez plutôt Emmanuel Macron.
Vous trouverez toujours des gens qui diront « Moi, on n'a pas répondu à mon sujet dans le grand débat. » Peut-être. Et nous ne résoudrons pas toutes les frustrations ou toutes les insatisfactions. Et donc, je veux que dans les réponses que nous aurons à formuler, il y ait un principe de responsabilité. J'ai ma part de responsabilité et je la prendrai dans les décisions que j'aurai à annoncer. Mais il doit y avoir une responsabilité de chacun dans ce qu'il est prêt à faire, y compris de chacun de nos citoyens.
Emmanuel Macron, mercredi donc depuis Saint-Brieuc en Bretagne. Alors l'après-grand débat qui va débuter demain est largement commenté aujourd'hui dans les différentes émissions politiques. Nicolas Dupont-Aignan, tout d'abord, président de Debout la France et tête de liste pour les élections européennes, il dénonce, Nicolas Dupont-Aignan, une manipulation de la part du gouvernement et il compare le grand débat à un édredon. Écoutez-le.
Moi je vois très bien ce qui est en train d'arriver à nouveau. C'est-à-dire que le président de la République, c'est curieux, la réforme des retraites, c'est pour après les européennes. C'est curieux, la privatisation d'ADP, qui est le scandale, sans doute le scandale financier le plus grave de notre temps, ça a été fait en douce, et il n'y a même pas eu de vote solennel en deuxième lecture. Donc, si vous voulez, ce que je n'aime pas, dans ce qui se passe, c'est ce sentiment qu'on nous endort. C'est une sorte d'édredon. Alors, dans un édredon, il y a des moments agréables, mais c'est pas ce qu'attendent les Français.
Nicolas Dupont-Aignan ce soir sur LCI. Alors, qu'attendent les Français, qu'attendent les dirigeants politiques de la restitution du grand débat? Question posée sur France Inter à Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste.
J'aimerais en attendre beaucoup. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Pour l'instant, je vois que les annonces se suivent et se ressemblent. En fait, les Français qui ont manifesté sur les ronds-points, dans les rues, et puis plus largement ceux qui ont soutenu le mouvement des Gilets jaunes dans l'opinion publique, eh bien, l'ont fait parce qu'ils souhaitaient un changement de cap. Et je vois que c'est tout l'inverse qui se profile. Ce n'est pas un changement de cap, c'est un approfondissement du cap initial. Sur la réforme des retraites, sur l'assurance chômage, sur y compris la taxe d'habitation.
Alors la question de la taxe d'habitation, donc soulevée par Olivier Faure, qui nous amène à parler de la fiscalité. C'est l'un des grands thèmes du grand débat. Ce matin, dans le journal de dimanche, Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, affirme que les impôts vont baisser en France. Pas convaincu, Valérie Pécresse, présidente du Parti Les Républicains de la région Île-de-France.
Je suis très inquiète, parce que comme le grand débat est parti dans tous les sens, et que depuis 6 mois, le gouvernement est sur pause, on promène le chien. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'aspiration à une tranche supplémentaire à l'impôt sur le revenu ou l'aspiration à ce que tout le monde paye l'impôt sur le revenu? C'est deux aspirations totalement différentes. On a tout entendu dans ce débat. On a entendu du pour, du contre. Le problème, c'est qu'il va falloir prendre des décisions courageuses et donner un sens à tout ça.
Donner un sens, affirmé Valérie Pécresse à midi sur BFM TV. Toujours sur cette question de la fiscalité, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National pour les Européennes, il va lui plus fort, il faut arrêter de raconter des cracks aux Français, déclare-t-il.
C'est marrant de les entendre nous expliquer que la pression fiscale va baisser, puisqu'on vient d'apprendre que l'électricité elle a augmenté de 6% au mois de juillet. Bon, moi il se trouve qu'en rentrant hier de Bretagne, je suis allé faire le plein de ma voiture et je me suis aperçu en l'occurrence, et les Français aussi, que l'essence était repartie à la hausse. Bon, donc il faut arrêter de raconter des cracks aux Français. La réalité c'est que les Français ils attendent aujourd'hui la paix fiscale.
Jordan Bardella dans le grand rendez-vous. Europe 1, CNews, Les Échos, c'est dès ce dimanche.
Alors pour l'heure, on ne connaît précisément que les réponses fermées au questionnaire disponible sur le site internet du Grand Débat. Le oui l'a quasiment systématiquement emporté pour le vote blanc, 82%, moins d'élus hors parlementaires, 71%, l'extension du référendum d'initiative partagée, 66%. Outre les quatre grands thèmes du débat, fiscalité, écologie, démocratie et organisation de l'État, vous attendez à quoi, Martial Foucault?
Tout d'abord, je m'attends à ce que le gouvernement ne définisse pas une feuille de route qui reposerait uniquement sur ces questionnaires dont vous venez d'évoquer à la fois l'intitulé. Moi, lors des débats, j'ai entendu beaucoup de Français totalement insatisfaits par la formulation des questions, indiquant mais là, finalement, on attend une réponse qui est déjà contenue dans la question. Donc, je crois qu'il va être très important de voir, et je crois que c'est un souci de transparence, mais j'espère qu'elle sera confirmée dans les prochaines semaines, en tout cas pour les chercheurs, mais aussi pour les journalistes, pour que l'ensemble des processus qui ont conduit à établir cette restitution soit partagé par tout le monde. Parce que il ne faudrait pas que l'on ait le sentiment qu'on va simplement construire une hiérarchie. Il suffit qu'on ait parlé de beaucoup de fois dans ces débats ou dans les propositions soumises par les Français, qu'on ait parlé de moins de fiscalité pour que ça devienne un enjeu de politique publique et surtout un motif d'action publique. Donc ça pour moi c'est important. Maintenant qu'est-ce que j'attends? J'attends que probablement l'exécutif aille au-delà des quatre thématiques du grand débat et que des thématiques qui n'étaient pas instruites en quelque sorte soient abordées. Je pense à la santé, je pense à l'éducation, je pense aux mobilités et transports, une thématique qui est très très souvent revenue, quel que soit d'ailleurs le lieu ou la taille de la commune. Et puis aussi des éléments qui m'ont frappé, alors peut-être que l'actualité l'a obligé, mais les questions européennes sont revenues très 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 souvent. Et que ce soit sur les questions d'harmonisation fiscale, que ce soit sur des questions sociales, l'idée d'un SMIC social. Ce sont des éléments qui sont revenus où les Français se sont rendus compte que la France n'est pas totalement isolée dans le monde. Et donc les partenaires européens doivent aussi, d'une certaine manière, converger vers un certain idéal social ou économique.
Le calendrier est le suivant. Demain, donc, la restitution à Paris, puis des discours du Premier ministre mardi et mercredi devant l'Assemblée nationale, puis le Sénat, avant les premières annonces d'Emmanuel Macron attendues mi-avril, c'est-à-dire dans une semaine. Le président de la République doit annoncer une mesure forte pour marquer les esprits, montrer que ce grand débat débouche sur du concret.
Oui, ça fait partie de la scénographie, c'est-à-dire qu'il va y avoir forcément plusieurs prises de parole. Ce serait curieux, attendons de voir, mais curieux que la restitution par le président de la République soit seulement un instant solennel, probablement cathodique, et on se dise voilà, maintenant la page est tournée et ce quinquennat reprend son envol comme si rien ne s'était passé. Alors on peut effectivement annoncer des mesures puissantes, je crois que c'est l'adjectif qui a été mentionné par Édouard Philippe, mais ça ne suffira pas. D'ailleurs, je pense qu'à partir de ce moment, il faut bien voir que le grand débat national, la France n'avait jamais connu au cours de la Ve République un instant. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés, nous, à apprécier en tant que politologue, est-ce que c'est un moment de démocratie délibérative? Je crois que les gens n'ont pas débattu. Ça a plutôt été un moment de démocratie consultative, c'était un moment de prise de parole. La démocratie participative, attendons de voir, on verra si effectivement, et c'est là pour moi l'enjeu, c'est vérifier si Emmanuel Macron va faire en sorte que ce débat se poursuive, peut-être pas de manière systématique, mais qu'un certain nombre d'acteurs, soit des élus locaux, soit des corps intermédiaires, se saisissent de cet espace, cette arène de discussion, pour pouvoir accompagner le gouvernement et briser peut-être ce qui lui est reproché, cette fameuse verticalité.
Alors ne vendons pas la peau de l'ours, etc., etc., mais apparemment ça paraît mal parti, puisqu'un sondage Elab publié jeudi montre que 68% des Français estiment que les points de vue exprimés ne seront pas pris en compte, et 79% que le grand débat ne résoudra pas la crise politique actuelle.
C'est inévitable. Il y a tellement d'attentes de nature différente, hétérogène, que forcément ça va nourrir des frustrations. Là où la frustration pourrait conduire à ce que finalement cette crise des gilets jaunes se poursuive dans l'ensemble du pays, avec peut-être une intensité plus faible, mais qu'elle se poursuive, si Emmanuel Macron donne le sentiment que les propositions qu'il va partager avec les Français ne confirment que son agenda initial de réforme, c'est-à-dire donner de la légitimité. Vous mentionnez tout à l'heure dans le questionnaire que les Français sont majoritairement favorables à une diminution du nombre de parlementaires. Bon, c'est quelque chose qui était déjà sur la table il y a plus de 2 ans. Donc effectivement, si ressort de ce débat, ce grand débat national, des éléments de réforme qui étaient déjà dans la tête et dans l'esprit d'Emmanuel Macron, ça va forcément créer plus de mécontentement que sortie de crise.
Je voudrais vous citer ce que dit Marine Le Pen hier. Elle a dit ceci: ce grand débat est une mesure dilatoire, et elle explique, soit Emmanuel Macron a déjà prévu les mesures qu'il va proposer, dont on sait qu'elles ne vont pas être essentielles, soit il tiendra compte de ce qui a été dit, et à ce moment-là, il va changer de politique, et dans ces conditions, je lui suggère de dissoudre l'Assemblée nationale. Martial Foucault du CEVIPOF, est-ce que ce sont là les seules alternatives du président de la République?
Bon, je crois que l'alternative de la dissolution, c'est évidemment, là, c'est une réponse très, très politique de Marine Le Pen, mais non, il y a des alternatives. On voit bien qu'aujourd'hui, pour moi, ce que ce grand débat a révélé, c'est 2 éléments intéressants. Je trouve que les Français, d'une certaine manière, ont souhaité refaire le match de la campagne électorale présidentielle. C'est-à-dire qu'ils ont eu un instant pour discuter de propositions, les confronter parfois à des experts, les confronter entre eux. Et finalement, il n'y a pas vraiment eu de campagne présidentielle sur des programmes, sur des projets. Donc, c'est pour moi un retour à cette campagne présidentielle. Et puis, le deuxième élément, c'est aussi une forte demande de discussion, non pas au niveau national, mais véritablement, ce qui a été discuté, c'est souvent sur des enjeux très locaux. Et donc, les citoyens français, on sait qu'il y a un océan de défiance politique. Il n'empêche que ce que révèle ce grand débat, c'est que les Français sont très confiants vis-à-vis de leurs représentants locaux. Et ils attendent de ces représentants locaux qu'ils puissent, à leur manière, influencer, accompagner l'agenda de réforme d'Emmanuel Macron à partir de maintenant. Donc ça, c'est un élément, je pense, important et à suivre.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplin.
Parliez des européennes il y a de cela quelques minutes, Martial Foucault. Dans la perspective de ces élections qui auront lieu le 26 mai, RFI et France 24 organiseront après-demain un débat entre 6 têtes de liste, Manon Aubry, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot et Nathalie Loiseau. 6 candidats et non 12, comme jeudi dernier, sur France 2, ce qui devrait permettre d'éviter la cacophonie de l'autre soir, Romain.
Oui, effectivement, le défi du débat à 12 était ambitieux et effectivement, ça n'a pas toujours été facile de s'entendre.
Ce que nous voulons, c'est renforcer les frontières extérieures. Nous voulons aussi lutter contre les passeurs. Il faut une coopération policière beaucoup plus efficace. Dans le chacun pour soi, comment est-ce qu'on fera pour lutter contre les passeurs?
Mais
chacun va garder ses...
La question... Est-ce qu'on peut arrêter... Excusez-moi.
Madame
Loiseau, là, on vous pose...
On a du mal à
Voilà, cacophonie totale. Donc c'était jeudi soir sur France 2. Alors ce qui a été entendu en revanche, c'est l'appel lancé par Raphaël Glucksmann, la tête de liste de l'Alliance Parti Socialiste Place Publique pour les Européennes, appel explicite lancé à Yannick Jadot qui était présent sur le plateau, tête de liste lui Europe Écologie Les Verts pour ce même scrutin. Yannick Jadot qui ce dimanche lui a répondu, c'était sur RTL.
La question c'est pas le discours qu'on tient à Paris. Ça, tout le monde est aujourd'hui écologiste. Depuis le Front National jusqu'aux Insoumis, tout le monde est écologiste. Le seul problème que nous avons, nous, écologistes, c'est que quand il s'agit de voter au Parlement européen sur la sortie du glyphosate, contre des accords de libre-échange, eh ben les socialistes que va rejoindre Raphaël Glucksmann, les libéraux que va rejoindre Madame Loiseau ou les républicains, ils votent ensemble. Ils votent ensemble pour cette Europe.
Voilà, Yannick Jadot donc pas prêt à rejoindre l'Alliance Parti Socialiste Place Publique. Au contraire, il a invité les électeurs socialistes à rejoindre la liste écologiste. Le parti présidentiel de son côté joue très gros lors de ces élections européennes, mais Gabriel Attal ne veut pas se focaliser uniquement sur le résultat. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse pense d'abord à faire avancer les idées de La République En Marche. Gabriel Attal sur France 3 ce dimanche.
Ce qui serait un échec, c'est que les idées qu'on porte, et on les porte au niveau européen, avec des partenaires au niveau européen, elles ne permettent pas de changer la donne en Europe. Ce qu'on veut, c'est reprendre en main notre destin en Europe. Et moi, ce qui me semble important, c'est qu'on gagne sur les idées. Là où je me méfie toujours sur ces questions d'être en tête, être deuxième, c'est que ça donne le sentiment que notre seul objectif, il est national et que c'est un objectif comptable. Non.
Voilà, cet objectif donc d'être premier à l'issue du scrutin européen, en tout cas le Rassemblement National se l'est fixé, et sa tête de liste, Jordan Bardella, ne cache pas qu'il y a pour lui un double enjeu à travers ce scrutin européen.
C'est évidemment un enjeu majeur pour l'Europe. À l'heure où l'Union européenne est incapable de protéger les Français et à l'heure où de plus en plus de peuples partout en Europe sont en train de se lever pour dire nous voulons être entendus, nous voulons être respectés et nous voulons récupérer le pouvoir. Maintenant, cette élection, c'est la première élection depuis l'arrivée d'En Marche à la tête du pays. Je l'assume, je pense que ça doit être un référendum sur la politique qui est conduite par Macron.
Voilà, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National pour les Européennes, ce dimanche sur Europe 1.
Martial Foucault, cette émission politique a mis en lumière le clivage entre souverainistes et fédéralistes. Est-ce que c'est là la ligne de fracture politique de ces Européennes 2019?
Oui, c'est probablement une ligne de fracture ou un clivage, mais je crois qu'un autre clivage, qui est celui souhaité par Emmanuel Macron, a été révélé pendant cette émission très très compliquée à suivre. On est d'accord. C'est ce fameux clivage entre, progressistes et alors le terme est à prendre avec des pincettes, mais le terme de populiste entendu finalement l'ensemble des têtes de liste qui ne souhaitent plus aujourd'hui s'en remettre à une certaine élite européenne qui réconduit la France dans la situation qu'elle connaît présentement.
Autre chose, cette émission n'a été regardée que par 1 900 000 personnes. Ce score de la soirée après des séries policières sur d'autres chaînes, ça vaut ce que ça vaut, mais est-ce que ça donne l'idée du niveau d'abstention le 26 mai prochain?
Oui, non, c'est un indicateur qu'il faut suivre parce que c'est effectivement 1 900 000 en début d'émission. Et je crois que l'émission a terminé avec 500 000 téléspectateurs. Donc, on sait que cette élection européenne, comme les précédents scrutins européens, sont exposés à une très faible participation. Les différentes enquêtes annoncent aujourd'hui une participation qui serait estimée entre 40 et 50%. Donc, c'est ce qui veut dire que il y a à la fois une forme de désintérêt, peut-être pas pour l'enjeu européen, mais un véritable désintérêt de la capacité aujourd'hui des partis politiques ou des têtes de liste à pouvoir discuter de ce que sont les enjeux européens perçus, vécu dans un espace national. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et aujourd'hui, on considère pour la grande partie des Français que les priorités d'action publique, c'est-à-dire l'emploi et deuxièmement la protection sociale, ne sont pas débattues.
Merci pour cette expertise, Martial Foucault, directeur du Centre de Recherche Politique de Sciences Po et auteur de Ville de Gauche, Ville de Droite aux presses de Sciences Politiques. Dimanche Politique a été réalisé pour la première fois par Fabrice Vialet.